Oui, notre invité du matin, c'est donc le député Nicolas Mazur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le président du gouvernement, Mila Kouloutou-Koumouli, va prononcer cet après-midi sa déclaration de politique générale. C'est un moment important, bien sûr. Vous-même, qu'est-ce que vous en attendez ?
On en attend la même chose que les autres présidents du gouvernement, c'est-à-dire qu'une déclaration de politique générale est faite pour fixer un cap de cette mandature. Quelles sont les orientations politiques de ce gouvernement ? Quelles sont les réformes qu'il compte mener en priorité ? Sur quel secteur ? Pour faire quoi ? Donc c'est ça qu'on attend d'une déclaration de politique générale. Et évidemment, nous, ce qu'on attend politiquement, au fond, c'est des mesures de relance économique et de réduction des dépenses publiques qui permettront justement de rendre le territoire attractif.
Oui, parce que la semaine dernière, le gouvernement est venu exposer devant les élus du Congrès en commission plénière la situation financière et budgétaire. C'est clair, tout le monde est d'accord, la situation est grave quand même.
Oui, la situation est grave. Alors, je sais que les Calédoniens entendent beaucoup de chiffres, mais si je dois résumer en quelques chiffres simples la situation. Depuis les émeutes, on a perdu un quart de nos recettes fiscales, 25%. C'est-à-dire que la Calédonie collectait en impôts et en taxes globalement 200 milliards de francs pacifiques. On en est à 150 aujourd'hui. Voilà. Il nous manque 50 milliards tous les ans pour équilibrer notre budget. Donc soit on augmente les recettes, alors c'est ce qu'on fait en allant chercher l'aide de l'État, soit on diminue les dépenses, et c'est ce qu'il faut faire notamment sur les comptes sociaux. Mais en gros, maintenant, on a 50 milliards à trouver par an.
Alors, quelles sont les réformes ? Est-ce qu'on sait déjà un peu quelles sont les réformes que l'on doit faire ? Est-ce que le président du gouvernement va déjà en annoncer ? Et est-ce qu'elles vont être dures à supporter pour les Calédoniens ? Est-ce que tout le monde va devoir faire des efforts ?
On va essayer de réduire les dépenses. Nous, on a toujours dit qu'on était contre l'augmentation des impôts et des taxes. On est contre l'augmentation de la fiscalité parce que les Calédoniens n'ont plus d'argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord réduire les dépenses. Donc je pense que, parce qu'on en a discuté bien évidemment, comme on est dans un bloc majoritaire aujourd'hui, je pense que M. Toukoumouli va dire d'abord on réduit les dépenses de la collectivité Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire on va à l'os dans les dépenses de fonctionnement, dans les dépenses d'investissement de la collectivité. Et ensuite, on va chercher quelque part, là où on n'a jamais été cherché encore, c'est-à-dire dans les comptes sociaux. Parce que là, on parle du budget de la Calédonie, mais enfin, le budget de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement, c'est une cinquantaine de milliards. Les comptes sociaux, vous voyez, la CAFAT, elle dépense 140 milliards de francs pacifiques par an. 140 milliards, c'est plus que le budget de la Nouvelle-Calédonie lui-même. Et on ne s'est jamais penché précisément sur le déficit des comptes sociaux et pourquoi il y avait un déficit. Alors, il y a des déficits. Déficit structurel comme la retraite, puis il y en a d'autres, bon, bah, il faut peut-être revoir des dépenses aujourd'hui qui sont injustifiées. Donc on va aller certainement gratter par là.
Alors justement, vous partez demain pour Paris, vous allez participer à cette mission transpartienne. Déjà, qui va y participer ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Mais qui va être présent autour de la table pour cette mission transpartisane ?
Alors, il y a les présidents théoriquement des collectivités, donc Mila Kouloutou-Koumouli, Sonia Bakès pour la Pointe Sud, les présidents de groupe du Congrès, mais je crois que l'UC ne vient pas, mais on devrait avoir le Rassemblement, les loyalistes, l'Unipalika et les parlementaires, donc M. Naturel, M. Tchibaou, je crois, qui a confirmé sa présence, et moi-même.
Et Monsieur Rouy, le sénateur Rouy, devrait également y participer.
Je pense.
Vous avez des nouvelles de votre collègue Emmanuel Tchibaou, justement ? Ça fait quelques mois qu'il est très discret.
Non, je l'ai vu en photo avec Nina Julio au Mont d'Or. Je crois qu'il a demandé des rendez-vous aux différents maires de sa circonscription. Mais je le trouve, oui, particulièrement silencieux, d'autant qu'il y a quand même de l'actualité politique et institutionnelle, parce que son groupe UC, parce que lui, il est quand même président de l'UC, hein, a un groupe au Congrès. Il y a des choses à dire sur les finances, on a besoin de l'État. Donc je le trouve étrangement silencieux.
L'État, qu'est-ce que vous en attendez ? Puisque cette mission transpartienne doit rencontrer les plus hautes autorités de l'État, hein, notamment les présidents des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, les ministères également, j'imagine, le ministère des Finances, peut-être aussi le chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez de tout ça ? On sait que l'État a déjà débloqué la troisième tranche du PGE. Vous attendez davantage aujourd'hui ?
Oui, parce qu'en fait, la tranche du PGE, donc du prêt garanti par l'État, était une tranche qui était attendue, les fameux 13 milliards, mais il nous en manque encore pour boucler la fin de l'année, donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Et puis surtout, il y a 2027, c'est-à-dire qu'il faut boucler le financement de 2026, mais il faut préparer celui de 2027. Il faut aller trouver encore une cinquantaine de milliards, comme je le disais, pour l'année 2027. Et c'est en ce moment même que se prépare ce qu'on appelle le projet de loi de finances en métropole, qui est tout simplement le budget de la France. Et donc, on s'y prend maintenant pour que Bercy, donc le ministère des Finances, intègre nos demandes dans le projet de loi de finances qui sera débattu en septembre et en octobre à l'Assemblée nationale. Donc on va tout simplement aller demander l'aide de l'État et on y va ensemble parce qu'on pèse plus lorsqu'on y va rassembler comme on le fait là.
Mais on sait que déjà le Premier ministre Sébastien Lecornu a un peu de difficulté à boucler le budget de la France pour 2027. Est-ce que dans ce contexte, la Calédonie peut être entendue, alors qu'il y a déjà énormément de problèmes? On a vu récemment, il faut également aider les régions qui ont été sinistrées par les incendies de forêt. Est-ce que la Calédonie est encore audible aujourd'hui à Paris?
C'est difficile parce qu'on est effectivement dans une situation où la France est dans une situation financière cataclysmique. Ils sont endettés comme jamais. Il y a la menace du FMI quand même de faire la même opération qu'avec la Grèce. On ne se rend pas compte à quel point la situation économique, budgétaire et financière de la France est catastrophique. Et donc c'est vrai que nous, avec notre petite Nouvelle-Calédonie, on pèse pas lourd, mais en même temps, c'est l'avantage, on pèse pas lourd. Et donc, dans le budget de l'État, hein, qui est quand même composé de plusieurs milliers de milliards de francs pacifiques, une petite place pour la Nouvelle-Calédonie, c'est possible. D'autant que ce qui compte dans ces moments-là, c'est d'avoir aussi des personnes qui ont une affection particulière pour le territoire et qui lui prêtent une oreille, attentive. Et c'est le cas de Sébastien Lecornu. On a la chance, dans ce moment-là de notre histoire, d'avoir Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui connaît la Nouvelle-Calédonie, qui s'est occupé du dossier, comme tout le monde le sait. Et donc, c'est vrai qu'il connaît les Calédoniens, il connaît nos demandes, il connaît nos difficultés. Donc, ça va un peu plus vite que si on ne connaissait pas le Premier ministre.
Alors, c'est le premier déplacement depuis les élections provinciales du 28 juin et depuis la remise à plat des institutions calédoniennes. Est-ce qu'il va être question, à l'occasion de ce déplacement à Paris, d'avenir institutionnel? Ou est-ce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour que vous reportez tout ça plus tard?
Nous, on a toujours dit qu'on ne voulait pas parler d'institutionnel tant que les élections présidentielles n'étaient pas passées et tant qu'il n'y avait pas une nouvelle Assemblée nationale. Parce que si c'est pour parler d'institutionnel, trouver un accord, quel qu'il soit, sur quelque sujet que ce soit, et qu'ensuite on se retrouve à l'Assemblée nationale pris dans le jeu des présidentielles où en fait on se fait shooter notre texte, hein, comme ça s'est passé sur le dégel à 10 ans, comme ça s'est passé sur Bougival, comme ça s'est passé sur les conjoints, on a payé pour voir quand même, hein, avec cette Assemblée nationale. Donc non, on n'a pas envie, parce qu'en plus on va susciter de l'espoir chez les Calédoniens, on va dire regardez, on discute, on va trouver un accord, on a trouvé un accord, on va devant l'Assemblée nationale et pouf, il n'y a plus rien. Donc je pense qu'il faut qu'on attende le prochain président de la République.
Les plus hautes autorités de l'État, pour l'instant, enfin le chef de l'État, le Premier ministre, n'attendent pas de la Calédonie un déblocage sur le plan institutionnel. C'est pas leur urgence. Donc.
Le président de la République, un peu, parce qu'il a organisé les trois référendums lors de son premier quinquennat et il n'a pas trouvé de solution au deuxième quinquennat. Donc il est un peu frustré par la situation, donc il nous a appelés en nous demandant notre avis, si on devait reprendre les discussions politiques, etc. Et moi, à titre personnel, je lui ai dit, écoutez, monsieur le Président, le problème, c'est l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, moi, j'y suis tous les jours. Quand bien même on trouve un accord avec vous, et c'est ce qu'on a fait, on a quand même signé, on a tous pris un beau stylo Montblanc à l'Élysée, puis on a signé un bel accord qui s'appelait Élysée-Oudinot, avec le Président de la République française quand même, et toutes les forces politiques, on a été devant l'Assemblée nationale, ça a été rejeté, donc on a payé pour voir.
Retour sur le territoire avec cette semaine également, le Congrès a entendu la direction d'Air Calin, une commission plénière qui a été réunie à votre demande d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité cette réunion? Vous pensez que c'est aux élus du Congrès de prendre en main la situation de la compagnie?
Je ne sais pas, on est actionnaire à 99,6% de la compagnie. Il va peut-être à un moment donné s'occuper du truc. Mais les avions sont cloués au sol tous les jours.
Ça va mieux là pour
l'instant. Non mais ça va mieux, évidemment, mais je veux dire, au moment où ça se passe, il y a des avions qui ne décollent plus, des avions qui sont annulés, retardés, sans information pour les passagers. On est actionnaire, comme je le disais, à 99,6% de la boîte. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on s'inquiète, ou il n'y a personne qui prend la parole, il n'y a personne qui cherche à comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que j'ai appelé Virginie Ruffin en lui disant, la moindre des choses, c'est qu'on quand même, on pose des questions à Air Calin. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à Paris? Est-ce que c'est pas lié à Paris? Est-ce que c'est lié aux appareils? Est-ce que c'est pas lié aux appareils? Et donc, ça a permis d'éclaircir les choses. Moi, je trouve qu'en plus, on ne parle jamais de ce qu'on devrait parler dans cette affaire. Il y a eu un ministre des Transports pendant au moins une dizaine d'années qui est Gilbert Tuyénon. C'est lui qui a pris toutes les décisions, d'aller à Paris sans consulter le Congrès, d'acheter les avions en retard par rapport au fait d'aller à Paris, Enfin, c'est lui qui a décidé de tout ça. Et il n'y a personne qui lui demande des comptes, en fait. C'est génial, en Calédonie, on a des responsables politiques en charge de grosses boîtes comme Air Calin, qui transportent des dizaines de milliers de passagers par an, dont la Nouvelle-Calédonie est actionnaire, et on n'entend jamais les mecs. Non, mais on est où ? C'est pas encore la République bananière, ici.
Et alors, à l'issue de cette commission plénière, vous avez eu des réponses, vous avez des orientations aujourd'hui ? C'est un problème de stratégie. Est-ce qu'on privilégie la desserte régionale ? Est-ce qu'il faut aller à Paris ? Sous quelle forme ? Est-ce que maintenant, vous avez les idées un peu plus claires ?
Oui, les choses sont très claires. En fait, il y a deux stratégies qui s'opposent, on va dire, avec la desserte aérienne en Nouvelle-Calédonie. Faire du régional, c'est-à-dire aller attirer des touristes néo-zélandais, australiens, japonais... pour faire vivre le tourisme intérieur en Nouvelle-Calédonie, mais ces lignes-là sont déficitaires, d'accord ? C'est-à-dire on perd de l'argent sur ces lignes-là. Soit on va à Paris, donc ça n'amène pas à un tourisme qu'on aurait régional, parce qu'en fait, les touristes métropolitains sont des gens qui seraient quand même venus en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de plus-value, parce qu'ils viennent pour des raisons plutôt familiales. Mais la ligne, elle, est excédentaire, c'est-à-dire qu'Air Calin gagne de l'argent. Et pourquoi Air Calin a décidé d'aller à Paris ? C'est suite aux émeutes, c'est-à-dire qu'il y a eu les émeutes de 2024, la compagnie perdait de l'argent, donc ils se sont précipités à Paris. Et pourquoi je dis précipités ? Parce qu'ils sont allés avec seulement deux avions capables de faire la liaison Paris, les deux A330. Et donc si un avion tombe en panne, ce qui peut arriver, hein, ce qui est quand même un bon signe si on arrête un avion au bord de la piste, c'est qu'on fait attention à la sécurité. Mais... s'il y en a un qui tombe en panne, c'est 50% de la liaison qui tombe à terre. Et donc, on n'a pas assez d'avions. Et je pense qu'il faut aller à Paris, parce que pourquoi on n'irait pas à Paris alors que ça permet de gagner de l'argent ? Attention, hein, faut que ça gagne de l'argent, parce que si Air Calin perd de l'argent, toute la théorie s'effondre, hein, sur Paris. Mais pour l'instant, ça gagne de l'argent. Mais pour aller à Paris, il aurait fallu plusieurs avions. Et donc, je pense qu'il aurait fallu d'abord avoir un troisième avion avant d'aller à Paris, pour être sûr que les passagers n'en payent pas les conséquences.
On a précipité les choses un petit peu, quoi.
On a un peu précipité les choses pour des raisons évidemment financières, parce que si on n'avait pas été à Paris à ce moment-là, est-ce que nous, on aurait subventionné le déficit comme on le fait avec Enercal, comme on le fait avec la CAFAT ? Est-ce qu'il y aurait eu un plan de licenciement à Air Calin ? Enfin voilà, il y a aussi des options derrière qui ne sont pas forcément très bonnes non plus. Ce choix-là a été fait. Nous n'avons pas été consultés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et peut-être qu'on aurait pu dire, nous, élus du Congrès, attention, si un avion tombe en panne, la moitié de la Calédonie est bloquée, enfin la moitié des vols. Donc il faut peut-être en commander un troisième.
Ça veut dire que maintenant, les élus du Congrès vont être plus attentifs, vont demander à être associés à la définition de la stratégie des choix de la compagnie ?
Alors oui, parce que c'est une demande qui vient de trois parties. Un d'Air Calin eux-mêmes, parce qu'ils nous l'ont dit, hein, ils sont contents de venir au Congrès pour pouvoir échanger avec les élus, parce qu'ils en avaient un peu marre quand même de la désinformation. Point 2, nous, c'est notre demande à nous, les élus du Congrès. Comme je le disais, on est actionnaire d'Air Calin, donc on veut savoir ce qui se passe. Et puis 3, c'est quand même la recommandation de la Chambre territoriale des comptes qui date de 2016, qui dit que là, alors pas le fait de choisir le prix des billets d'avion, la stratégie commerciale ou le fait d'avoir un A330 ou un A320, etc., mais la stratégie politique, c'est-à-dire à quoi sert Air Calin ? Est-ce que ça sert à désenclaver la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que ça sert à faire venir du tourisme ? Ou est-ce que c'est une compagnie qu'on considère privée qui doit faire que du chiffre d'affaires ? Eh bien ça doit se décider au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est une décision de la Chambre territoriale des comptes.
Vous aurez un avion pour partir pour Paris, là, Thomas ?
J'espère. Normalement, c'est bon.
Alors, toute autre chose, en métropole, on sait que l'on est rentré de plein pied dans la préparation des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. On entend parler tous les jours. On imagine que les députés sont très sollicités, vous également. Est-ce que vous savez déjà qui vous soutiendrez ou est-ce que c'est prématuré ?
Pour savoir qui on soutiendra, c'est un peu prématuré. Vous savez, hier, il y a eu la Coupe Clark avec la très belle victoire de l'écurie de Salah Nasser. Et jusque dans les derniers mètres, il faut être prudent parce que l'outsider peut gagner à tout moment. Et le favori d'hier, de M. Roy, que je salue, n'a pas gagné la Coupe. Donc, il faut se méfier des favoris trop longtemps avant la course parce qu'ils peuvent perdre dans le dernier virage. Par contre, on sait sur qui il ne faut pas parier. Ça. Et j'ai eu l'occasion de le dire, donc Mélenchon, évidemment, on oublie, la gauche, on oublie, mais même Édouard Philippe, on oublie. Parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que Gérald Darmanin ait soutenu Édouard Philippe ces derniers jours, hein, en tout cas qui a annoncé son ralliement. Pourquoi je ne veux pas qu'on soutienne Édouard Philippe et pourquoi je demande aux Calédoniens de ne pas le faire ? Parce qu'il l'a fait campagne à l'Assemblée nationale contre le droit de vote des conjoints en Nouvelle-Calédonie. Contre. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, le droit de vote pour les conjoints en Nouvelle-Calédonie n'est pas passé du nouveau. Si on avait eu le soutien du groupe d'Édouard Philippe, ça serait passé. Voilà, ça serait passé et les conjoints auraient eu le droit de vote pour les élections provinciales. Donc je veux bien qu'on m'explique tout et n'importe quoi sur Édouard Philippe. C'est pas l'extrême droite, c'est pas la gauche, il est bien, il est modéré, etc. C'est quand même la même recette que les époques Chirac, etc. C'est des mecs qui se revendiquent de droite, mais qui, sur la Nouvelle-Calédonie, appliquent une politique qui sied aux indépendantistes. Voilà. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je me suis battu avec les députés Horizon à l'Assemblée nationale sur le droit de vote des conjoints. Et donc ça, je ne pardonnerai pas.
Et donc, vous attendez d'avoir une donne un peu plus complète avant de choisir éventuellement...
Non, mais ce qu'on attend, pour pas faire de langue de bois, on attend l'union des droites. Voilà, pas se cacher. Hein. Il y a pour l'instant beaucoup de chevaux qui sont intéressants, mais qui sont déjà partis. Il y a Bruno Retailleau chez les LR. Il y a David Lisnard chez les LR. Il y a quand même Sarah Knafou qui est très bien pour la Nouvelle-Calédonie. Moi, quand même, je suis dans le groupe de Gabriel Attal. Gabriel, il a toujours été réglo sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'il a toujours fait voter le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, contrairement au groupe Horizon, en faveur des Calédoniens pro-français, bon, parce qu'il me laissait les commandes du truc, mais quand même. Donc, voilà. Alors, bien sûr que Gabriel Attal ne va pas s'allier à Sarah Knafou, évidemment, mais je ne pouvais pas ne pas en dire un mot ce matin parce que c'est mon chef de groupe et qu'il a toujours été réglo avec moi. Mais disons que moi, politiquement, en mon fort intérieur, j'attends quand même que la droite se rassemble.
Nicolas Mézor, député de la première circonscription, à la veille de son départ pour Paris. Merci d'accepter cette invitation.
Merci beaucoup.
Une interview que vous pourrez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, le www.rrb.nc.